Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour mesdames, messieurs. Je vous souhaite d'abord mes meilleurs voeux pour cette année qui commence. Avant de reprendre, si vous le voulez bien, notre examen, je vous rappellerai que lors de la dernière leçon de l'année 2009, nous avions commenté les fonctions de la déesse Achi. Il le fallait bien, puisque un texte consacré à la déesse, il se trouve inséré avec un certain nombre d'autres textes entre ce passage, semble-t-il, décisif du sacrifice, qui est l'intervalle entre le Yasna 51, l'avant-dernière gatha, et le Yasna 53, qui est la dernière gatha. C'est le moment où l'obstacle est brisé, nous dit un commentaire du vice-prêtre, et nous allons bientôt comprendre avec en toute clarté ce que cela signifie. Donc, c'est dans ce créneau que la déesse Achi trouve un morceau très réduit, mais qui lui est personnellement consacré. Alors, de l'examen que nous avons mené lors de la dernière leçon, j'ai essayé d'établir que la déesse Achi, selon une possibilité de compréhension de son nom, était une déesse qui prenait le départ. Elle prend le départ à partir de l'ère sacrificielle, sans doute, pour conduire vers l'est, c'est-à-dire vers le paradis, la demeure des dieux, la force mentale des officiants. Elle revient, prend un nouveau départ, vers l'ère sacrificielle, en char. Le motif du char est insistant en ce qui concerne la déesse Achi, et un char chargé de bienfaits, puisque la déesse est celle qui laisse des ornières profondes. Tant son char est chargé de cadeaux pour les hommes, pour les bons sacrifiants. Elle revient vers ce que, métaphoriquement, le poète de ce secteur du texte appelle la maison, et qui est une désignation de l'ère sacrificielle. Elle vient avec ses cadeaux dans cette ère sacrificielle, et cette maison sacrificielle est alors transmutée en maison domestique, la maison où réside la famille, où Achi va rester, si possible, longtemps. Le verbe important, cet endroit-ci, c'est « hatch », s'associer, accompagner. Dès lors, selon une autre modalité de la compréhension des mots, la déesse départ est aussi une sorte de déesse chance. Hein. Sans le mot, sans la connotation hasardeuse qui accompagne le mot chance en français, je pense à Gluck en allemand ou à Luck en anglais, n'est-ce pas, elle est la déesse du bonheur domestique. Et elle reste donc, si possible, longtemps dans la maison des hommes. Alors, il y restait une question pendante, c'est celle que nous allons envisager tout de suite. Pourquoi évoquer Achi à ce moment du rite? Que sa personnalité puisse être établie, c'est une chose, mais pourquoi l'évoquer à ce moment-ci? Alors, si vous voulez bien, nous allons reprendre la première strophe du Yasna 52. La première strophe du Yasna 52 consacrée à Achi permet peut-être, nous inspirera peut-être, comment dire. Bon, la traduction, nous l'avions vue la fois dernière, nous en avions parlé, mais je n'ai pas commenté ce qui fait tout de même l'étrangeté de cette strophe. Le verbe de base est afrinami, signifie propitier. Il se réfère à un genre rhétorico-rituel tout à fait officiel, qui est la propitiation. Le verbe équivalent en sanskrit védique est à la fois plus banal et présente tout de même les mêmes particularités, n'est-ce pas, puisque le verbe « pri » du sanskrit védique signifie « montrer son affection à quelqu'un ». D'ailleurs, le mot « priya », le mot priya est un des noms de l'ami, si possible. Mais toutefois, ce verbe a aussi une signification rhétorituelle lourde, puisque certains hymnes védiques sont désignés comme des hymnes à pri, des hymnes de propitiation. C'est un dérivé en avestique, puisque le genre de la propitiation est désigné par le terme afriti, avec le dérivé d'action en ti. Donc, une afriti, une propitiation. La propitiation, ce verbe se construit avec l'accusatif de la chose que l'on veut rendre favorable, bien l'abstraction, le bienfait que l'on veut attirer sur quelqu'un se met à l'accusatif. Et la personne à qui l'on cherche à faire bénéficier de ses bienfaits est au datif, donc accusatif et datif. Vous voyez qu'ici, il y a une petite, une petite irrégularité grammaticale, mais qui est acceptable dans le cadre de l'avestique récent, comme ceux d'entre vous qui en font le savent, c'est que le bénéficiaire de la propitiation est exprimé par une expression qui, dans sa première partie, est au génitif et dans la seconde, au datif. Cette sorte de confusion entre le génitif et le datif est assez fréquente pour les mots féminins. Donc, l'on propitie quelque chose au bénéfice de l'asti, c'est-à-dire toute la réalité, tout ce qui existe, qui a été créé par l'achavan, génitif achavno. Et cette sti, on lui demande ce bienfait pour son futur, son présent et son passé. Donc, on lui souhaite des bienfaits qui dureront l'éternité. Donc là, le bénéficiaire, le datif théorique, nous le trouvons. Le problème, c'est que nous avons deux accusatifs. Nous avons deux accusatifs qui ne sont pas les mêmes. Lequel est le bon ? D'abord, vanku cha, vankans cha, la particule de coordination cha. Vanku, accusatif neutre du mot qui désigne le bien ou ce qui est bon, ce qui est bien. Donc, je propitie, je souhaite le bien ou ce qui est bon. Et vankans cha, en principe, c'est l'accusatif neutre pluriel du comparatif de vahu, bon. Donc, je souhaite ce qui est bon et ce qui est meilleur encore, et les choses meilleures encore, car c'est un pluriel, à tout ce monde existant, cette sti. Alors, ce qui est étonnant, parce que cela ne correspond pas à la pratique usuelle de la rhétorique avestique, c'est que le verbe n'est pas répété avec le deuxième accusatif, qui est la déesse Hachi elle-même avec ses épithètes, Hachim. C'est une chose suffisamment étonnante pour que Bartholomée, je savais que Bartholomée, l'auteur du dictionnaire avestique, dont les traductions ont été collectées par un des élèves, une des traductions à laquelle on se réfère toujours parce qu'elle est grammaticalement très bonne, c'est un de ces endroits où Bartholomée a été profondément sceptique. La traduction que Bartholomée fait de cette strophe est un véritable fromage de gruyère. Il est parsemé de points de suspension. Il n'a pas voulu donner une interprétation à cette coexistence un peu surprenante de deux accusatifs. Si vous vous reportez maintenant à la traduction que Pirard, dans son livre « L'Aphrodite iranienne », paru il y a quelques années, a fait de ce passage, vous verrez qu'il a supposé un certain nombre d'ellipses. Je me risquerais à dire que ces suppositions vont jusqu'à l'invraisemblable. Je ne crois pas que des ellipses aussi massives puissent être pratiquées. Alors, la solution la plus simple, celle que nous pourrions adopter, c'est d'imaginer que Afrinaami doit être compris une deuxième fois avec pour objet la déesse Hachim. C'est ce que fait Almut Hinz dans son livre sur l'Urn im Indo-Iranischen, qui est paru en 2001. C'est la solution qui paraît la plus satisfaisante. Mais je vous ferai remarquer que, dans ce cas-ci aussi, un deuxième élément un peu surprenant survient, c'est que nous n'avons plus de bénéficiaires. Et je ne sais pas si l'on peut, à toute la réalité du monde existant, souhaiter la venue de la déesse Hachi, n'est-ce pas, la déesse Hachi. Le rapport des dieux ne se fait pas avec le monde, il se fait avec les hommes. Je ne veux pas... Bon, ça, c'est une raison, je dirais, conceptuelle de trouver cette décision étrange. Alors, il y a tout de même... Rappelons-nous, nous allons nous rappeler où nous nous trouvons. Nous nous trouvons à cette fameuse jointure entre le Yasna 51 et le Yasna, 50, et le Yasna 53. Alors, il m'est venu l'idée un peu idiote, n'est-ce pas, de regarder ces deux textes, et ce qui saute aux yeux lorsqu'on regarde ces deux textes avec ce que nous trouvons ici, c'est que le premier, le Yasna 51, commence par Vohu. Premier mot du Yasna 51. Et le second, le Yasna 53, se termine par le mot Vario. Comparatif de vous, au singulier, c'est la seule différence. Donc, je me pose véritablement la question de savoir si cette clausule initiale, Vankucha, Vankons, Cha, n'est pas une référence textuelle au premier et au deuxième et au dernier mot du secteur rituel qui est ici important. Ce qui, dans la langue des commentaires et de ce genre d'évocation textuelle, pourrait être compris comme, en récitant le texte qui commence par Vanku et qui se termine par le comparatif, par son comparatif, Vario, je souhaite, je rends propice envers tout le monde existant la déesse. Hachi, la déesse Hachi. Alors, pourquoi Hachi ? Cela explique sans doute la référence au texte, oui, ça s'explique par la situation ici. Mais où trouver Hachi dans ce texte ? La logique voudrait que ce fût dans la dernière strophe du Yasna 51, hein, au milieu, entre le début et la fin, en quelque sorte, même si le Yasna 51 et le Yasna 53 ne sont pas des textes de longueur égale. Alors, le secteur, la fin du Yasna 51 est un peu, rappelez-vous, c'est un secteur un peu particulier. Les trois dernières strophes du Yasna 51, qui en comportent 22, ont été certainement très utilisées par l'exégèse. Pourquoi ? Eh bien, prenons la première d'entre elles, le Yasna 20. C'est de ce Yasna 51-20 que l'on a extrait le noyau à partir duquel va se développer la fameuse prière Hachem Vohu. Prière Hachem Vohu qui se trouve en exergue de Yasna 27-14. Hachem Vohu est une clausule de Yasna 51-20. Le Yasna 51-22, lui aussi, a servi à fabriquer les formules de mise en exergue, puisqu'il est le modèle sur lequel on va le paraphraser, hein, on va réécrire, n'est-ce pas, le Yasna 51-22, pour en faire la prière Yenke Hatan, que l'on trouve dans le Yasna 27-15. Donc, modèle du Yenke Hatan pour le Yasna 51-22. Il reste la strophe intermédiaire 21. Strophe 21, comment se termine-t-elle ? Eh bien, le verbe Yasa, je demande Hachi. Ce sont les deux derniers mots du Yasna 51-21. Si ceci est correct, bon, c'est à vous d'évaluer la dose de hasard qui est possible, n'est-ce pas, je me suis un peu avec certains embarras, je me rends bien compte que je viens de me comporter un peu comme Martin Schwartz, hein, en utilisant les mots épars des gathas, vous avez peut-être entendu les conférences il y a un an ou deux. Mais peut-on considérer ces assemblages terminologiques, n'est-ce pas, comme hasardeux, comme aléatoires, je n'en suis pas tout à fait sûr. Et j'ajouterai, pour compléter le tableau, que dans le tout dernier texte qui termine l'ensemble gathique, c'est-à-dire la prière Arya Manishya, qui est en fait la dernière strophe du Yasna 53, mais qui est mise elle aussi, qui est isolée, qui compose un chapitre particulier, parce qu'elle a une puissance particulière, que nous devons d'ailleurs commenter, eh bien, cette expression « Yasa Hashim », « Je demande la récompense »,« Je demande le bonheur », cette clausule figure aussi dans le Yasna 54.1. Alors, de tels détails, s'ils sont corrects, j'espère, nous ramènent à une idée que nous avons eue très fréquemment à évoquer durant ces leçons, c'est-à-dire que tous ces textes de l'Avesta récent qui servent de t'assertir le corpus gathique, sont des textes qui sont fondés sur un vaste mouvement d'exégèse. Ces choses sont correctes, cela montre que nous avons ici l'œuvre de gens dont le métier, finalement, était de commenter les textes. Cela suppose un commentaire. Nous ne l'avons pas, malheureusement. Nous ne l'avons pas. Et ce qui fait défaut, d'une certaine manière, et je ne veux pas spéculer trop dans le vide, quelle idée se faisait-il de la déesse Ashi ? Nous avons vu sa fonction. Je vous ai donné des raisons, peut-être, pour lesquelles un texte qui lui est entièrement consacré figure à cet endroit du grand rituel. C'est tout. Je ne veux pas que nous puissions aller plus loin, bien tout en vous prévenant, d'ailleurs, qu'il faudra bien que nous fassions quelques hypothèses sur d'autres aspects de cette fin de sacrifice. Alors, tout ce que je vous demanderai de peut-être, tout ce que nous allons retenir ensemble en attendant, c'est qu'il y a un lien très certainement entre ce fameux brit, l'obstacle, le vertrakna qui a lieu à cet endroit du rite, la déesse Ashi et autre chose encore, un autre terme, n'est-ce pas, que nous rencontrons sur notre route depuis le début et qui est le kshatra, puisque le second mot, celui sur lequel porte Vohu dans le Yasna 51.1, c'est kshatram, il s'agit du bon kshatra. Et dans le Yasna 53.9, la dernière strophe du Yasna 53, c'est le kshatra qui est la force, cette capacité, puisque c'est son sens, Ya, Dahi, on parle à Ahura Mazda, par cette capacité avec laquelle tu donnes Vario, ce qu'il y a de meilleur. Donc le mot kshatra est aussi présent derrière ces deux adjectifs, bon et meilleur, de façon fort insistante. Et cela, je n'en parle pas maintenant pour faire un peu, c'est pas pour faire un peu stupidement du suspense, c'est pas du tout ça, mais je préfère attendre que les textes eux-mêmes mettent les choses en place, parce qu'ils le feront, ils le feront. À un moment donné, le rôle que joue dans tout ceci, dans cette sortie de sacrifice, la notion de capacité, la notion de kshatra, cela sera exprimé. Toutes les questions que nous pouvons nous poser se trouvent en principe dans les textes. Le malheur, c'est que nous n'avons pas tous les textes, donc nous n'avons pas toutes les réponses. Mais certaines, nous pourrons le faire. Alors, voici, nous pouvons clôturer le chapitre du Yasna 52, reprendre notre progression, c'est-à-dire passer à nouveau après le Yasna 57, qui était le grand hymne Nasraucha. Nous avons commenté la personnalité du Dieu et nous avons cerné aussi ici peut-être les raisons propres que l'auteur avait, que l'arrangeur du Yasna avait de faire figurer à cet endroit du rite, n'est-ce pas là, un texte consacré au Dieu Sraucha, qui, je vous le rappelle, est d'ailleurs dans l'ordre du Panthéon l'époux d'Ashi. Alors, passons, si vous voulez bien, au Yasna 58, au-delà du texte consacré à Sraucha. Ce texte, nous avons déjà signalé son titre, Il est, selon l'Avesta lui-même, selon les manuscrits, il porte un titre avestique. Il est le Shusho Mantra. Il est mentionné par l'auteur du Yasna 57, dans le sacrifice que Hauma rend à Srausha pour l'investir de son rôle dans la protection des hommes. N'est-ce pas, le moment décisif, la force qui est conférée à Srausha, l'est par la récitation des gathas du Yasna Haptankaiti, du Shusho Mantra. Si vous vous rappelez, nous avions vu cela il y a déjà quelques leçons, car cela nous montrait, c'est intéressant, parce que cela nous montre que pour les auteurs de l'Avesta récent, le noyau du rite, ce qu'ils appellent, lui, le Stauta Yesnia, et que nous appelons l'Avesta ancien, n'est pas un diptyque, comme nous le considérons, nous, sur la seule base linguistique, hein, la langue vieille avestique, Gata Yasna Haptankaiti, mais un triptyque, Gata Yasna Haptankaiti, Shusho Mantra. D'ailleurs, c'est le dernier élément, hein, c'est le dernier élément des Stauta Yesnia. Ensuite, il faudra bien sûr arranger quelques clôtures, ça va de soi, toujours, les clôtures sont nombreuses, comme vous savez, hein, c'est une course de haies, en quelque sorte, pour les sauter, parce que chaque texte constitutif de l'Avesta ancien est clôturé par un commentaire en avestique récent. Donc le Shusho Mantra, dernière partie de l'Avesta ancien, selon les auteurs de l'Avesta récent et selon l'arrangeur du Yasna lui-même. Une chose toutefois que nous devons préciser à ce sujet, c'est que le texte que nous possédons, le texte du Yasna 58 que vous avez avec une petite traduction que j'ai ménagée mais que je commenterai à un moment donné, ce n'est pas le texte du Shusho Mantra proprement dit. Il semble que ce texte, qui était très probablement un texte véritablement vieil avestique, bah, soit perdu. Et ce que nous avons ici, selon l'auteur du Yasna 59, c'est le chapitre suivant, qui réfère bien sûr au texte qui précède, c'est le Shusho Mantra Hadaukta. C'est donc un texte Hadaukta, un texte de commentaire dans, selon les catégories des auteurs de l'Avesta récent. Le mot signifie, je vous le rappelle, complémentaire. Il est Hadaukta. Complémentaire, ça signifie un texte de commentaire dans les fêtes et dans le moyen perse de l'époque sassanide, du premier millénaire de notre ère, ce sont les textes hadokt, c'est évidemment la version moyen perse du mot avestique lui-même. Alors, le Shusho Mantra, c'est un texte aussi qui n'a pas beaucoup retenu l'attention. Son cas est tout à fait analogue à celui du Yasna 56. Ça fait déjà plusieurs leçons maintenant que nous l'avons abordé, ce Yasna 56. Mais il n'a commencé à intéresser les spécialistes qu'au moment où ils se sont souciés de découvrir éventuellement des fragments, dans l'Avesta récente, des fragments vieil avestiques. Pirard et moi avons lancé ce problème, n'est-ce pas, de recherche de fragments vieil avestiques dans l'Avesta récent lors de notre traduction des gathas. Et Pirard, seul, dès lors, quelques années plus tard, est parti à la pêche. C'est lui que nous devons la première analyse à cet égard du Yasna 56. Vous le savez, nous en avons parlé. Mais c'est à lui aussi, en 92, que nous devons une contribution sur le Yasna 58, sur le Shusho Mantra. Le texte est revenu au premier plan de l'actualité philologique, si vous voulez, dans notre domaine, n'est-ce pas, quelques années plus tard, lorsque, au colloque de Ravenne, en 2003, Xavier Tremblay, mais sa contribution n'a été publiée qu'en 2007, Xavier Tremblay a tenter d'établir que le Shusho Mantra était un de ces textes que l'on pouvait définir comme moyen avestique. Le moyen avestique est une idée nouvelle, je vous le rappelle. C'est une idée que Tremblay a lancée lors de ce colloque de Ravenne. Sinon, la doctrine que vous trouverez exprimée dans la plupart des des ouvrages spécialisés jusque-là, c'est qu'il y a une rupture nette entre le vieil avestique et l'avestique récent, une rupture probablement de plusieurs siècles, et que cette rupture est totale, c'est-à-dire que nous n'avons aucun texte de transition. Tremblay a tenté de donner une autre image de ce rapport entre le vieil avestique et l'avestique récent. Nous avons commenté il y a 3 ans, si j'ai bonne mémoire, le travail de Tremblay, les conclusions de Tremblay à cet égard. Et vous savez que j'étais un peu hésitant, je le suis toujours. J'ai beaucoup discuté avec Xavier Tremblay de cela. Je préférerais peut-être que l'on parle d'avestique récent archaïque. Il me répond avec certainement partiellement raison. Oui, mais quelle est la différence entre avestique récent archaïque et moyenne avestique? Oui, bien sûr, tout est dans le choix de la terminologie. Le problème, c'est que je ne suis pas aussi convaincu que Xavier Tremblay qu'il y a autant de traits qui différencient ces textes qu'il considère comme moyen avestique de ceux qui sont rédigés en vieil avestique d'une part et de ceux qui le sont en avestique récent d'autre part. Alors, qu'en est-il du Shusho Mantra ? Le Shusho Mantra est un de ces textes dont il faut véritablement envisager la possibilité qu'il soit de l'avestique récent archaïque, soit du moyen avestique. Il le faut. Tous les textes témoins de Tremblay n'ont pas cette autorité, ne sont pas aussi décisifs. Je considère que si nous devions établir un corpus moyen avestique, nous l'avions commenté à cette époque, il faudrait prendre en considération le corpus, ce que j'ai appelé le secteur des déclarations, c'est-à-dire le secteur qui va du Yasna 11-16 au Yasna 15-1 et dont le centre est la déclaration que nous connaissons bien, dite Fravarane, c'est-à-dire la déclaration du choix rituel. Là, sans aucun doute, c'est un texte qui est parmi les plus anciens de l'Avesta récent et que l'on pourrait considérer comme moyen avestique. Et le Shusho Mantra, c'est aussi un texte de ce type. Les autres, je suis plus sceptique. Alors, clairement, la langue du Shusho Mantra, ce n'est pas du vieil avestique. Si vous vous reportez à la strophe 2, vous trouverez la forme ablative Twai Shankat, qui est décisive. C'est un trait avestique récent, car à l'époque du vieil avestique, le génitif et l'ablatif sont toujours semblables. Cette différenciation analogique à partir des mots thématiques est propre à l'avestique récent, pour le donner comme cela. Alors, ce n'est pas de l'avestique récent normal. Ce n'est pas de l'avestique récent normal. Il présente, par rapport à l'avestique récent, des traits véritablement très archaïques. Ce sont des traits, malheureusement, c'est pour ça que j'hésite entre les deux, archaïque et bon. C'est pour ça que j'hésite. Ce sont des traits qui sont assez vagues dans la mesure où ce sont des faits de syntaxe, des faits de sémantique. Mais donc rien qui paraisse avoir l'impérieuse nécessité d'une différenciation véritablement distinctive. Clairement, n'est-ce pas, il y a quelque chose d'impressionnant. Néanmoins, quelque chose d'impressionnant, et cela se trouve à la strophe 3, c'est la forme verbale Shiyama. Nous prenons plaisir. Shiyama. Qui pourrait bien être un injonctif non prétérital. Car la catégorie que nous appelons injonctif, oubliez ce nom-là, mais c'est la catégorie qui est définie formellement comme cela, exprime exclusivement le passé en avestique récent. Pas en vieil avestique. Pas en vieil avestique. En réalité, c'est l'un de nos soucis, n'est-ce pas ? Car nous ne savons pas, très souvent, nous ne savons pas, lorsque nous traduisons un texte de vieil avestique, si nous devons traduire telle ou telle forme verbale d'injonctif par un passé ou un présent. Bien. Alors, si ce schéma, effectivement, est un injonctif non prétérital, pour essayer de l'expliquer comme un subjonctif ou un optatif, mais formellement, ça peut être un injonctif. Si c'est le cas, là, c'est un trait qui serait véritablement décisif et qui nous obligerait de considérer de manière tout à fait ferme que nous n'avons pas affaire à de la vesticrescence, c'est autre chose. Donc ici, l'appellation de moyenne avestique serait parfaitement justifiée. Alors, autre chose, maintenant, abandonnons cette... je crois qu'avoir tout de même montré comment il faut considérer dans la chronologie relative de l'Avesta un texte comme celui-ci, ça ne fait pas de doute. Hein. C'est un des plus vieux textes de l'Avesta récent, ou quelque chose d'intermédiaire entre le vieil avestique et l'avestique récent. Mais il y a quelque chose de commun avec le texte du Fravaranné, c'est que c'est un texte qui bâtit un message original, qui lui est propre, spécifique, concerté, par évocation de passages de l'Avesta ancien. Ces évocations sont de nature diverse, peut-être une citation pure et simple. C'est le passage de l'Avesta ancien est cité, littéralement, à la lettre. Ou bien il est paraphrasé, c'est-à-dire réécrit autrement. Le Fravaranné le faisait, n'est-ce pas ? Nous avons étudié quelques exemples de ces paraphrases, de ces réécritures. Ou alors simplement allusion au texte par son vocabulaire, par ses clausules, par ses expressions. Mais tout cela est combiné de telle sorte qu'il s'en dégage un message original. Un message original. Il y a toutefois une différence avec le Fravaranné. Souvenez-vous, le Fravaranné était fondé sur une déclaration de choix rituel où l'officiant se targuait de quatre caractéristiques. Mazda Yasno, je suis quelqu'un qui veut rendre le sacrifice à Mazda. Zarathustrich, je veux faire comme Zarathustra. Vidaivo, je veux rompre avec les Daivas. Ahura Tyasho, je veux professer la doctrine sur Ahura. Et à partir de ces quatre caractéristiques, de ces quatre épithètes, n'est-ce pas, il prolongeait son texte en les commentant chacune. C'est un texte qui se prolongeait sous forme d'autocommentaire. Et ce n'est pas cela du tout dans le Shusho Mantra. La même pratique, c'est-à-dire l'évocation des textes vieil avestiques, est utilisée d'une manière tout à fait différente. En réalité, le Shusho Mantra se présente comme deux volets articulés par une charnière centrale. Cette charnière, c'est ce que les spécialistes de la littérature orale américaine appellent l'omphalos, le nombril. C'est ce qui se trouve, c'est ce qui se trouve au milieu. C'est votre deuxième page. Hein. J'ai voulu reproduire dans les papiers que Céline Rodard vous a distribués cette structure en volet avec l'omphalos de la strophe 4. L'omphalos de la strophe 4 qui contient le mot chouche mantra, qui contient le mot chouche. Le mot mantra n'est pas mentionné dans la strophe 4. Je vous proposerai à la deuxième ligne, vous trouvez le mot choumeux. Il faut lire chouche. Le mot choumeux qui a été repris ici est une proposition de correction due à Cherveux, mais qui n'a pas été accepté. Il faut donc, comme dans le titre, avec la tradition antérieure et celle d'aujourd'hui aussi, celle de Tremblay, lire « choucheux ». C'est un mot qu'il nous faudra commenter, je vais le laisser. Donc, c'est le terme « choucheux »,« charker mahi » qui sert de charnière entre les deux volets. Je ferai remarquer à ce moment-ci, mais je vais commenter plus longuement le cours de cette strophe, que cette petite clausule, Shushe Charker Mahi, est probablement là le seul fragment que nous trouvons du texte original. Ça, c'est une clausule vieille avestique, c'est elle qui figure à l'omphalos de notre texte. Alors, les deux volets, eh bien, ils sont symétriques en quelque sorte, n'est-ce pas ? Il s'agit d'évoquer d'abord un genre liturgique. Ce genre liturgique, c'est un nom neutre. Bon, c'est un mot que vous connaissez bien parce qu'il est fait. Bon, c'est un mot sanskrit presque passé dans l'usage courant. Sanskrit namas, nemar. Comment traduire ces termes ? C'est pas bien ces termes qui désignent un genre rhétorico-rituel. C'est toujours un problème, vous le savez bien. On le traduit par l'hommage. C'est la traduction convenue, l'hommage. Dans la traduction que j'ai préparée et qui vous a été transmise, j'ai tenu à affubler ce mot hommage d'une majuscule, afin que vous ne retiriez pas de la lecture du texte un sens affadi du mot. Hein, parce que rendre hommage à quelqu'un, bon, c'est très banal. Non, c'est un genre rhétorico-rituel. Hein. Par ce genre rhétorico-rituel, ben, nous entrons d'une manière tout à fait spécifique en contact avec les dieux. Donc le namas, le nama, l'hommage, nous ne savons pas naturellement en quoi cela consiste exactement. Vous verrez que nous serons obligés de faire des hypothèses. Et cet hommage a pour effet de nous assurer une protection. Vous savez, nous avions dit de nombreuses reprises déjà le thème de la protection qui est nécessaire depuis lors, depuis le moment où les sacrifiants ont repris pied dans la vie matérielle, dans la vie de tous les jours, car il faut bien sûr protéger sa vie matérielle. Et apparaît dès les premières strophes du Yasna 55, c'est-à-dire immédiatement après que les gathas soient terminés, que leur récitation soit achevée. Le second volet, qui occupe donc après la strophe 4, les strophes 5 à 7, la strophe 8 est une citation, la strophe 8 est une citation dont nous aurons à parler, eh bien, en quelque sorte, procède à l'inverse, n'est-ce pas ? Commence par demander aux dieux une protection, avec d'autres verbes. Cette fois, le verbe en question, « protégez-nous », il est cité du Yasna 34.7, introduit par une citation littérale, celle-ci du Yasna 34.7, c'est le verbe « tra », protéger, qui est en sanskrit « trayate », protégez-nous. Donc, demande directe de protection aux dieux, et cette demande de protection se résout dans la strophe 7 par un retour au genre rituel de l'hommage, mais cette fois l'hommage est adressé au feu d'Ahura Mazda. Voilà la structure générale du texte. Et alors, je crois que nous pouvons conclure de cette structure, que nous n'avons pas affaire à ce que Pirard appelle très fréquemment un manteau d'arlequin, c'est-à-dire un tissu couturé de lambeaux vieil avestique ou de leurs commentaires en avestique récents, mais que nous avons au contraire un texte homogène qui a pour but de fournir un message cohérent et strictement concerté. Alors, lequel ? Nous allons tenter de l'établir. Si vous voulez bien, nous allons commencer par lire ce texte ensemble en faisant un certain nombre de commentaires. Donc, nous tenons pour un manteau et une cuirasse l'hommage qui a la bonne caractéristique, qui s'associe à Ashi, qui s'associe à Armaïti. Et cette caractéristique de l'hommage, c'est la pensée qui a été bien pensée, le texte qui a été bien dit, et le geste qui a été bien fait. Donc, nous trouvons, si cette idée qui est apparemment convenue, n'est-ce pas l'idée, mais l'introduction est de la triade du comportement, de la pensée, de la parole et de l'action, et qui se traduit aussi par l'appellation générale de chitra, c'est-à-dire de caractéristique de l'hommage. Alors, que cet hommage nous protège de la nocivité des démons et des hommes, c'est un tel hommage que nous confions nos biens vivants, Gaïta, et nos corps, Tanvas, pour qu'il les protège, les garde, les préserve et les surveille. Quatre verbes synonymes qui se réfèrent à la protection. Donc, nous retrouvons dans cette strophe l'image de confier à une réalité du monde sacré, éléments rituels ou divinités, la matérialité des êtres vivants à travers les thèmes Gaïta, Gaïta, les êtres vivants sur la terre matérielle, et Tanvas, Tanu, les corps. C'est une idée qui était exprimée dès le Yasna 55.1, puisque c'est cette strophe qui servit de modèle au bricolage, comme nous l'avons appelé, du Yasna 55.1. Nous trouvons plaisir, fameuse forme verbale Shyama, nous trouvons plaisir à te rendre hommage, ô Ahura Mazda. Nous voulons te rendre hommage, nous nous engageons à te rendre hommage. À l'hommage, nous confions nos biens vivants et nos corps pour que tu les protèges, les gardes, les préserves, les surveilles. Et citation du Yasna 44.1, où le mot hommage figure deux fois. Deux fois, donc ici, Ahura Mazda. Alors, apparemment, avec l'homme phallos, avec la charnière, nous changeons de monde. Ça paraît curieux. Il faudra tenter de voir pourquoi c'est cette strophe qui sert d'articulation à l'entièreté du passage. Celui qui a du bétail, Schumann, hein, c'est celui qui a du bétail, est achavan, il est conforme à l'agencement. Il brise l'obstacle, il est vertrajan, il est très bon, vaishto. Le verbe charkermahi, c'est un verbe rare en avestique. Il meurt d'ailleurs dans la tradition iranienne, il s'éteint, nous n'en avons plus. Nous avons cette forme verbale, charkermahi, ça signifie nous célébrons. C'est le verbe qui sert à la célébration, à chanter, à célébrer les exploits passés des divinités ou des hommes. Nous célébrons fouche. Est-ce qu'on souhaite le génitif singulier, c'est sa particularité. Le fouchan. Le fouchan. Fouchan a pour équivalent sanskrit Pashushan. Pashushan. Donc le nom du bétail, le sanskrit a perdu la possibilité de le priver de la consonne de la première syllabe, ce que possibilité qui existe encore en avestique, c'est le bétail. Et un verbe, le verbe san, qui signifie conquérir. Celui qui conquiert le bétail, bien sûr, c'est le chef de razzia. Hein, soyons clairs, c'est le chef de razzia. Le verbe se construit au génitif. Hein, c'est pour ça que la forme est un peu particulière, que vous ne retrouvez pas nécessairement parfaitement la racine san, conquérir, dans le génitif choucheux, mais c'est régulier. Donc, nous célébrons le conquérant du bétail. Celui-là, ce conquérant du bétail, il est le père de la vache, gauche. Il est le père de l'agencement, achat. Le père de l'homme achavan, c'est-à-dire du commanditaire du sacrifice, si vous vous souvenez, selon nous. Et le père de la réalité, c'est ce sti qui figurait dans le Yasna 52, hein, de toute cette réalité existante, de la réalité existante, éternelle, Haïtio. Excusez-moi, non. Donc, il est le père de toute la réalité qui est désirable, qu'il faut choisir à cause de l'agencement, pour son agencement. Et ce père de tous ces éléments, il est Haïtia, il est donc éternel, et il rend toute chose bonne, Vankuda. Que celui qui a le bétail, celui qui possède le bétail, le préserve et surveille nos biens vivants et nos corps pour toute une série de raisons, donc pour prix de l'agencement, pour prix du soin de pâture, Vastracha, pour prix de l'offrande, l'offrande généreuse, hein, le verbe ra, c'est l'offrande dispendieuse, c'est l'offrande importante, pour prix du partage, Vidisha, pour prix de l'absence de mal, Ainiti, et pour prix de ton feu, ô Ahura Mazda. le feu d'Awamazda, excusez-moi. Je voudrais que, ici, on peut faire remarquer, apparemment, l'on ne dit pas de qui il est question, n'est-ce pas, mais le père de la vache et de l'agencement, etc., signifie clairement qu'il est question d'Awamazda, en fonction du Yasna 37.1 qui dit à peu près la même chose, dans le même ordre, qu'il est celui qui a mis en place la vache et l'agencement du monde. Donc, il s'agit d'Awamazda, dont le nom est d'ailleurs explicitement mentionné en tant que père du feu rituel, en dernière position de la strophe. Alors, voici donc cette strophe qui, bien sûr, renoue avec le thème de la protection, mais en faisant le détour par cette curieuse définition de la divinité comme chef de razzia et comme possesseur du bétail. Alors, le reste, on revient donc à l'idée de la protection, débouchant finalement sur celle de l'hommage, dans la même mesure que nous avons donné, peut-être une citation d'un passage avestique perdu. Je n'ai pas voulu donner les guillemets parce qu'on ne peut pas en être sûr. Ô immortel bienfaisant, protégez-nous. Protégez-nous, bon, protégez-nous, bonne. Toujours cette préoccupation de répartir les Amushaspenta entre entités masculines et entités féminines. Donc, protégez-nous, immortel bienfaisant, qui est très capable et généreux, comme dit le Yasna 34.7. C'est une citation. Je ne connais pas d'autre protecteur que vous. Dès lors, protégez-nous. Nous disposons autour de la vie bienfaisant nos pensées, nos mots, nos gestes, notre bétail et nos gens. Pour que notre bétail soit intact, que durent nos biens vivants, que dure notre bétail, que durent nos gens et que nous, intacts, chanceux, pourvu d'Achille, hein, littéralement, l'on nous voit longtemps parmi les flammes créatrices du Créateur. Alors, probablement que le second atout chaud et le génitif Aurae Mazda en final sont une glose qui sert à désigner qui est en réalité ce créateur. Ici, je dois vous attirer votre attention sur le fait que j'ai pris la décision de traduire le mot Raotchebich par flamme, parce que c'est un passage consacré au feu. Le mot est en réalité raucha, ce qui signifie littéralement, si nous le traitons de manière strictement étymologique, comme les lumières. Les lumières. Vous pouvez en prendre note, hein, il notait sous flamme lumière au pluriel. Seulement, je vous rappellerai, ce n'est pas le sujet évidemment que nous traitons ici, mais pour tenir compte de tous les paramètres qui peuvent intervenir dans ce texte, et que le vieil avestique, que ce soit les Gatha ou le Yasna Abtankaiti, a cette étrange particularité, nous en sommes réduits à une pure spéculation pour aux conjectures les plus arbitraires pour l'expliquer, ne désigne pas le ciel. Tout se passe comme si les textes de vieil avestique appliquaient le tabou du nom du ciel. Il y a des substitutions. Il y a des substitutions. Et le mot pour les lumières, au pluriel, est peut-être l'un de ces mots de substitution. Alors, il faudrait peut-être comprendre simplement aussi, si lumière est le terme, vraiment la traduction littérale, on pourrait comprendre de manière, au contraire, plus éloignée, qu'il s'agit, que l'on nous voit longtemps, puissions-nous être vus longtemps par le ciel. Par le ciel. Passage au singulier, fatalement, hein, que les lumières désignent cette réalité unique que peut être le ciel. Peut-être. Hein. Alors, ça, c'est la troisième possibilité. D'ailleurs, nous allons le voir, le même problème revient dans la citation du Yasna 36.6, la citation du Yasna Abtankaiti, qui figure dans la strophe 8, « Nous t'attribuons le plus beau d'entre les corps, ou Awamazda, le ciel, qui est la plus haute des hauteurs depuis que le soleil a reçu son nom. » Ici, pour compléter l'éventail, j'ai traduit « les lumières par le ciel », puisque cette traduction est d'ailleurs tirée telle quelle de la traduction des verbes vieille avestique, sauf que j'ai repris ma vieille interprétation que j'avais concédée à Pirard, je l'avais pour interpréter « avat yad vare avachi » depuis que le soleil a reçu son nom. Ça, c'est une autre traduction. Mais c'est sans importance pour notre propos ici. Donc, vous voyez qu'il y a ce problème toujours sous-jacent, nous ne savons pas bien ce qui, dans le mot « les lumières », littéralement, est en cause. Une seule chose, toutefois, j'ai fait mes traductions divergentes, représentent chacune deux conjectures. Les flammes, c'est que, puisque nous sommes dans un passage consacré au feu, le ciel, parce qu'il semble que dans le Yasnahaptankaiti, pas dans les Gata, le mot Raucha, au pluriel, les lumières, soit une désignation, substitut du nom du ciel. Voilà. Alors, sachez cela pour bien comprendre la traduction, mais je n'ai pas commenté la strophe 7, j'y reviens. Hommage à toi, feu, fils d'Ahura Mazda, puisses-tu accéder à la plus grande des demandes, c'est une citation du Yasna 36.2, et donne grandement la santé et l'immortalité à celui qui cherche ton aide, grandement à celui qui cherche ton soutien. Donc voilà ce texte. Vous savez, d'abord, il y a maintenant 3 ans, ce texte a été expliqué par Xavier Tremblay lors de mon séminaire. Bon, ceux qui ont assisté s'en souviendront bien. Xavier Tremblay, c'est d'ailleurs son intervention est longuement exposée dans l'annuaire du Collège de France de cette année-là. Xavier Tremblay a fait remarquer ce qui est correct, je me sens obligé de le faire remarquer immédiatement aussi, c'est que lorsqu'on lit ce texte, n'est-ce pas, on ne comprend pas bien. On ne comprend pas bien ce qui se joue. Il n'y a pas de difficultés grammaticales majeures, elles sont, je vais dire, de routine. Elles ne compromettent pas, en général, la compréhension même du texte. Je vous ai donné la principale ambiguïté, c'est ce fameux nom des Lumières. En dehors de cela, il n'y a rien qui contrarie une appréhension du fond du texte. Et pourtant, non, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que nous avons un texte archaïque, typique de la pensée indo-iranienne ancienne, où le rapport, je dirais, entre l'implicite et l'explicite est relativement compliqué et surtout est extrêmement différent de ce qu'il pourrait être dans un texte moderne. Nous sommes donc obligés de faire fonctionner notre imagination avec tous les risques que cela présente. Celui de donner au texte, bien sûr, un sens qu'il n'a pas, qu'il n'a pas vraiment. Alors, quant à la question centrale de savoir quel est le rapport entre les deux volets, cet hommage et cette protection, quel est, avec ce thème de la possession du bétail, de la conquête, puis de la possession du bétail, Xavier Tremblay avait fourni une explication. Vous savez que, vous vous souvenez peut-être, il l'avait vu dans « conquérir et protéger, conserver deux faits complémentaires », c'est-à-dire acquérir le bétail, le conquérir, puis le garder, puis le conserver. Ce qui nous amenait automatiquement peut-être à à l'intervention finale du feu. Le feu étant, en tant que centre de la vie domestique, de la vie d'une communauté, pas l'acteur principal auprès duquel, n'est-ce pas, on ramène ce que l'on a conquis et auprès duquel on le conserve. Donc là était l'interprétation donnée par Tremblay à ce texte. Nous pouvons le vérifier, mais peut-être aussi un peu compliqué cette conclusion. En attendant, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a dans le cours de ce texte, de la première strophe à la dernière, ou à l'avant-dernière si vous voulez, la dernière n'étant qu'une citation, il y a un double glissement. Il y a d'abord un mouvement du Panthéon. Il y a un mouvement du Panthéon. D'abord, on évoque des divinités féminines, les guenards, les femmes divines, Achi et Armaïti, dans la première strophe. Achishagut, Armaïtishagut. La deuxième strophe est quelque chose que nous connaissons bien. Le Panthéon, en proprement parler, n'est pas évoqué. On ne nous dit pas à qui l'hommage est rendu, comme d'ailleurs dans la première strophe, mais on a sorti son évocation d'une notation que Chervieux appellerait blame. Cas des rhétoriques contrastées, où dès que l'on fait l'éloge de quelque chose, il faut blâmer quelque chose d'autre. Ici, c'est l'usage de l'hommage comme une protection contre l'hostilité des dieux, des démons et des hommes. Donc la notation blame. Ensuite, la divinité à qui l'hommage est rendu est mentionnée dans la strophe 4, Ahura Mazda, mais dans la strophe 3, excusez-moi, c'est à Ahura Mazda aussi qui est consacré la strophe 4, comme je viens de l'exposer dans le commentaire. Mais dans le commentaire, on voit une allusion extrêmement elliptique encore aux Ameshaspenta, sous la forme du pluriel, votre. Nous commémorons celui à qui vous devez votre grandeur, votre excellence et votre beauté. L'intervention de divinité plurielle sont probablement l'introduction en douceur, elliptique des Ameshaspenta, et puis la mention finale du feu, qui deviendra aussi importante. Enfin, dans la strophe 5, les Ameshaspenta comme corps collectif, dûment cité, cette fois-ci Ameshaspenta. Dans la strophe 6, curieusement, Spentamainyu, le bon esprit, l'esprit bienfaisant, ça, le commentaire, il faudra y venir, mentionné avec Ahura Mazda, génitif final de la strophe. Enfin, dans la strophe 7, le feu d'Ahura Mazda lui-même. Et la strophe 8 est une citation qui concerne le feu. Il y a donc un glissement, l'on passe en revue le Panthéon. On passe en revue le Panthéon. Les entités féminines de la première strophe ne sont pas évoquées en tant que personne divine, mais en tant que caractéristique du rite, l'hommage qui s'associe à Achi et à Armaïti. Et les entités féminines finales, la santé et l'immortalité, Ovartat et Amurtat, dans la strophe 7, donner la santé et l'immortalité, ne sont pas non plus invoqués comme personnalité divine, mais comme des biens que le feu va assurer aux sacrifiants. Bon. Donc, un panthéon qui est passé en revue jusqu'à se focaliser dans les dernières strophes sur le feu rituel. Ça, c'est le premier glissement du texte. Il y en a un deuxième. C'est la source d'inspiration vieille avestique. Dans le premier volet, la source d'inspiration se trouve dans le Yasna 34. C'est le Yasna 34. Il y a une citation du Yasna 34-7, n'est-ce pas, que je vous ai dans la strophe 5 aussi. Comme nous verrons, toutes les évocations, que ce soit par citation, que ce soit par paraphrase, proviennent du Yasna 34. Nous avons déjà vu ça, souvenez-vous. Avant que commence la récitation gathique, première fois dans le Yasna 27, 6 et 7, lorsque l'on demande à l'écoute, au dieu des sonorités d'être présent, c'est aussi le secteur textuel qui intéresse l'arrangeur du Yasna. Yasna 33, Yasna 34. C'est le Yasna 34 qui est en jeu. Et puis, à un moment donné du texte, qui est strophe 6 d'ailleurs, on passe au Yasna 36, ce qui paraît naturel, puisque le Yasna 36 est le second chapitre du Yasna Abtankaiti qui est consacré au feu rituel. Puisque l'on a introduit la figure d'Attar, la figure du feu rituel dans cette strophe, il est normal que l'on évoque paraît normal, du moins, que l'on évoque une strophe qui est consacrée au feu. C'est pas bien sûr. Seulement, l'Iliasna 36, ça paraît naturel. Et l'Iliasna 34, non. Nous sommes à nouveau devant le problème que nous connaissons bien, à savoir comment l'auteur du Iliasna 58 comprenait-il le Iliasna 34. Que se passait-il durant, rituellement durant l'Iliasna 34? C'est ceci qui est en cause dans ce texte. Malheureusement, il faudra plus d'une leçon pour le débrouiller. Nous commencerons la leçon prochaine par tenter d'interpréter de façon combinée le double glissement conceptuel que nous trouvons dans l'Iliasna 58, c'est-à-dire en quelque sorte l'aboutissement du Panthéon au feu rituel et puis le passage du Iliasna 34 au Iliasna 36 qui concerne effectivement le feu rituel. C'est là où les deux problèmes se rencontrent en quelque sorte. Je vous remercie de votre attention. À la fois prochaine. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.